Et le journal d'Alexis Morel, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. La police sommée de s'expliquer 8 mois après le féminicide de Mérignac. Des hauts gradés convoqués aujourd'hui devant les conseils de discipline. Et les questions seront nombreuses tant les défaillances ont marqué les esprits dans cette affaire. On y revient en détail dès le début de ce journal. Pas d'impact majeur d'Omicron sur la croissance française, assure ce matin le ministre de l'économie. Mais une vie sociale déjà perturbée, notamment à l'école où les directeurs s'arrache les cheveux, vous l'entendrez. Tandis qu'à l'Assemblée, gros revers cette nuit pour la majorité, l'examen du pass vaccinal est suspendu. Au sommaire aussi, Valérie Pécresse face au défi du rassemblement de la droite. Et la 5G menace-t-elle la sécurité aérienne? Les États-Unis retardent son déploiement à la demande des compagnies.
Au micro de Léa Salamé à 7h50, c'est aujourd'hui, je vous le rappelle, la romancière Karine Thuile pour son nouveau roman intitulé La décision est publié chez Gallimard.
France Inter.
C'est inédit, Alexis, dans un dossier de féminicide, des policiers convoqués devant un conseil de discipline.
Ils seront 6 aujourd'hui à devoir s'expliquer à Bordeaux et Paris. Parmi eux, 4 responsables hiérarchiques, dont le patron de la sécurité publique en Gironde. 8 mois maintenant après le féminicide de Mérignac. C'est l'histoire de cette jeune femme, Chahinez Daoud, visée par balle, puis brûlée vive en pleine rue par son mari. Elle avait pourtant porté plainte contre lui 1 mois et demi plus tôt. Dans la foulée, les missions d'inspection ont conclu à des dysfonctionnements dans la chaîne policière et judiciaire. Bonjour Emmanuel Leclerc.
Bonjour.
C'est donc sur ces défaillances que les policiers seront entendus aujourd'hui, parce qu'ils auraient pu arrêter le compagnon de Chahinez à plusieurs reprises avant le meurtre.
Oui, on est le 15 mars 2021, Chahinez Daoud porte plainte à nouveau contre ce mari violent qui vient de faire de la prison pour ça et dont elle s'est séparée. Cette fois, il l'a embarqué de force dans sa camionnette. Il l'attendait sur le parking du supermarché. Il l'a frappé à nouveau avant qu'elle ne réussisse à ouvrir la portière et à s'échapper. Très vite, on sait qu'une capitaine de police envoie un équipage de la brigade anticriminalité planqué devant le domicile de la victime pour tenter un flagrant délit. Mais ça ne marche pas. 3 jours après cette plainte du 15 mars, une vidéosurveillance montre que Chahinez est tiré par les cheveux pour monter dans la camionnette et que ça dure 2 heures. C'était donc une séquestration et là, rien de plus. L'unité départementale de protection de la famille n'est pas saisie. Les officiers du commissariat disposent de 2 adresses chez la sœur du suspect et celle de son travail. Un numéro de plaque d'immatriculation et un téléphone portable et pourtant aucune géolocalisation n'est effectuée.
Mais dans les rangs de la police, Emmanuel, on ne veut pas être les seuls à porter le chapeau dans cette affaire et on regarde notamment vers les services judiciaires.
Oui, sur un point précis, on sait que le meurtrier de Chahinez Daoud s'est rendu à 2 convocations entre le 15 mars 2021 et le jour du crime, le 4 mai, au sein du service pénitentiaire d'insertion et probation qui assure le suivi de sa sortie de prison. 2 occasions manquées, là encore, pour aller l'arrêter. La directrice par intérim de ce service et la capitaine de police en charge de l'affaire se sont bien parlé, mais il y aurait eu une totale incompréhension. De sources syndicales policières, on estime que les responsabilités sont bien du côté judiciaire et pénitentiaire.
Explication Emmanuel Leclerc, service police justice d'Inter. Merci Emmanuel. La mort de Chahinez Daoud, l'un des 113 féminicides de 2021 selon les chiffres du collectif Nous Toutes. Et depuis le 1er janvier déjà, 3 drames recensés par ce même collectif. 3 millions d'euros de bijoux et de montres volés dans 2 braquages chez Chopard, Place Vendôme et Chanel, avenue Montaigne. C'était en décembre 2015 et en mai 2016 à Paris. Le procès s'ouvre aujourd'hui. 10 braqueurs présumés dans le box des accusés. C'est plutôt une réouverture car l'audience devait se tenir à l'automne 2020. Et elle avait été renvoyée en raison du Covid. Quant au butin impressionnant, il n'a jamais été retrouvé.
Il est 7h33. Les enfants de soignants parisiens, Alexis, pourront aller à l'école quoi qu'il arrive en janvier.
C'est une information France Inter. Même en cas d'absence d'enseignants positifs au Covid et donc de fermeture de classe, les personnels soignants de la PHP pourront laisser leurs enfants chaque matin à l'école. Ils y seront accueillis. Pour les directeurs d'école, c'est un paramètre supplémentaire à prendre en compte dans une équation de plus en plus complexe entre les nouvelles règles d'isolement, les questions des parents, les professeurs et les élèves malades. Ça tourne déjà au casse-tête depuis hier matin, Sonia Princet.
J'ai couru un peu partout toute la journée, résume une directrice de maternelle. 3 enseignantes absentes dans l'école primaire de Sandrine, en Seine-Saint-Denis. 2 avaient prévenu ce week-end.
Hier matin, peu avant d'arriver à l'école, vers 7h, une collègue m'a envoyé un SMS pour me dire qu'elle serait absente dans la journée, donc ce qui a fait 3 collègues absentes sur 15. Il a fallu gérer l'accueil des parents, l'accueil des élèves. J'ai eu pas mal d'élèves malades aussi. J'ai passé quasiment ma journée à appeler des familles pour les prévenir que leurs enfants se sentaient pas bien, avaient de la fièvre, des maux de ventre, des maux de tête, des vomissements. Quand il y a tout ça à gérer, c'est pas évident. Je me suis sentie épuisée.
Et pourtant, ce n'était que le premier jour de la semaine. Olivier, directeur d'une école élémentaire en Vendée, se prépare à devoir gérer les tests négatifs des cas contacts tous les deux jours, avec les attestations sur l'honneur des parents et les allers-retours des élèves.
On ne sait pas comment organiser la classe, si vous voulez, quand on n'a qu'une partie de nos élèves. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on ne peut pas avancer? Est-ce qu'il faut faire des révisions? Est-ce qu'il faut continuer? Toute cette gestion inquiète un peu. On craint de ne pas pouvoir faire classe normalement pendant les semaines à venir.
Olivier avait réuni son équipe hier midi pour en parler. Les enseignants s'inquiètent aussi des conditions dans lesquelles ils travaillent. Les masques en tissu fournis par l'Éducation nationale n'ont pas été renouvelés depuis octobre. Quant aux capteurs de CO2, ils n'en ont jamais entendu parler dans leur école.
Les nouvelles règles de dépistage en milieu scolaire ne vont pas alléger la pression sur les centres de tests. En ce moment, 1 million de tests sont réalisés chaque jour en pharmacie, c'est du jamais vu. Affluence record aussi dans les laboratoires d'analyse, difficile parfois d'obtenir un rendez-vous, comme dans la banlieue de Bordeaux. Reportage Stéphanie Scock.
Dès 7h du matin, les patients faisaient la queue devant les portes du laboratoire. Parmi eux, Muriel et son fils Enzo.
Malheureusement, moi, mon mari et mon grand s'est fait tester et on a été positif. Après avoir fait un test antigénique négatif, on est parti faire la fête et malheureusement, on est tombé malade le lendemain. Et mon fils, qui est juste à côté de moi, Enzo, s'est fait tester négatif. Mais par précaution, je préfère faire un PCR pour retourner au lycée.
Marie-Jeanne est également cas contact et elle a bataillé pour pouvoir être testée.
J'ai essayé hier soir de prendre des rendez-vous, ça buguait constamment. Et là, je suis venue et le médecin biologiste m'a dit que je suis qu'à contact, que je passais.
Car en plus des rendez-vous, Biolab 33 accepte donc des patients qui se présentent spontanément. Dans la file d'attente, certains s'impatientent. Devant certains labos, on joue des coudes et on s'énerve. Olivier Cressant, médecin biologiste, est en charge des tests.
Je ressens moins d'agressivité qu'à l'approche des fêtes. Disons que ça dépend du contexte dans lequel on demande un test. Quand on fait un test parce qu'on est malade, quelque part, on veut surtout avoir son résultat. Après, il y a d'autres cas de figure où c'est juste de l'incompréhension, c'est des tests que les patients n'ont pas forcément envie de faire. Mais dans l'ensemble, la grande majorité, l'ensemble des patients sont extrêmement compréhensifs, ils voient bien qu'on fait le maximum.
Biolab 33 a déjà recruté du personnel supplémentaire, on s'adaptera pour faire face à la demande, promet le médecin.
Un reportage signé France Bleu Gironde. En moyenne, 167 000 cas positifs recensés chaque jour cette dernière semaine. Et ce matin, 19 600 malades du Covid sont hospitalisés, 2 500 de plus en une semaine. Omicron menace l'hôpital, perturbe la vie sociale, mais il ne devrait avoir qu'un impact faible sur la croissance, selon Bruno Le Maire. Le ministre de l'économie l'assure ce matin dans le Figaro. Il maintient donc sa prévision de 4% pour 2022. Dans ce contexte, le pass vaccinal pourra-t-il entrer en vigueur dès la mi-janvier? L'examen au pas de charge du projet de loi a connu un coup d'arrêt inattendu cette nuit. Discussion suspendue lors d'un vote à main levée. Les députés ont refusé de poursuivre les débats au-delà de minuit, comme le demandait le gouvernement. La majorité s'est fait surprendre par la mobilisation à la dernière minute des parlementaires LR. On devrait savoir dans la matinée quand la séance pourra reprendre. La conférence des présidents de groupe doit trancher. À droite, en tout cas ce matin, on se réjouit d'un camouflet pour l'exécutif à 3 mois de la présidentielle. C'est justement aujourd'hui que Valérie Pécresse installe son QG de campagne dans le 17e arrondissement de Paris. L'occasion pour la candidate LR de présenter son organigramme complet. L'enjeu pour elle, c'est toujours de rassembler son camp. Il faut donc piocher dans toutes les composantes de la droite. Plus facile à dire qu'à faire, Anne Souhaitement.
Un petit air de remaniement ministériel. À quelques heures de l'annonce de l'équipe de campagne, certains à droite sont fébriles, pas sûrs d'en être, ni à quel poste. Une trentaine d'orateurs régionaux doivent être nommés. La liste sera scrutée à la loupe. Car si depuis sa victoire au Congrès, Valérie Pécresse a coché toutes les cases du rassemblement, l'annonce des 6 porte-paroles a créé des déceptions la semaine dernière. Trop francilien pour les uns, trop macro-compatible pour les autres. Allusion notamment à Christelle Morançais. L'été dernier, la présidente des Pays de la Loire en avait agacé plus Dudin à droite en partageant sur les réseaux sociaux une photo d'elle et d'Édouard Philippe. L'aile droite l'a très mal pris, décrypte un député. Aujourd'hui, Valérie Pécresse va donc devoir donner des gages à toutes les composantes de sa famille. Il y en aura pour tout le monde, promet son entourage, mais cela suffira-t-il à calmer les esprits? Derrière leur vote contre le pass vaccinal la nuit dernière, plusieurs députés LR ont aussi voulu envoyer un message à leur candidate qui appelait à voter pour la mesure. Exclu de l'équipe de campagne, j'ai repris ma liberté, nous confiait l'un d'eux.
Précision d'Anne Souhaitemont, c'est une figure de la révolution de 2011 en Égypte. À la surprise générale, la justice égyptienne vient d'ordonner la libération de Rami Chat. Le militant égypto-palestinien, membre aussi d'un mouvement de boycott d'Israël, était en prison depuis plus de 2 ans pour trouble contre l'État. Le mois dernier, 5 ONG de défense des droits humains avaient interpellé Emmanuel Macron sur son sort. 28 000 migrants ont tenté de traverser illégalement la Manche en 2021. C'est un record, 3 fois plus que l'année précédente, selon les chiffres du ministère britannique de l'Intérieur.
Il est 7h40, la 5G est-elle dangereuse pour les avions, pardon?
La question se pose très sérieusement aux États-Unis où le déploiement de la 5G ne cesse d'être repoussé. Les compagnies aériennes viennent même d'obtenir cette nuit un nouveau délai de 15 jours. Elles craignent en fait des interférences avec les outils de pilotage, Thibault Lefèvre.
C'est un conflit de fréquences radio. D'un côté, la 5G américaine qui doit fonctionner sur une bande passante comprise entre 3,7 et 4 GHz. Et de l'autre, des altimètres de précision essentiels pour l'atterrissage des avions, notamment, qui marchent grâce aux ondes situées entre 4,2 et 4,4 GHz. Un spectre très proche donc, avec de possibles interférences qui pourraient donc provoquer des dysfonctionnements. Alors dans le doute, les opérateurs de téléphonie français confrontés au même problème il y a un peu plus d'un an, ont été contraints de brider leurs antennes relais à proximité de 17 aéroports. Gilles Brégan est le directeur de l'Agence nationale des fréquences.
Ce que nous avons demandé aux opérateurs mobiles, c'est de ne pas autoriser le tir de faisceaux 5G vers le ciel. Les antennes 5G à proximité des aéroports ne servent que les personnes qui sont au sol, ce qui évite évidemment toute interaction avec les avions et permet d'avoir toutes les protections utiles pendant qu'on vérifie le fonctionnement des radioaltimètres un par un. Et ça se passe de la même manière outre-Atlantique.
Avec cependant une différence importante selon le secteur aéronautique américain, la 5G est beaucoup plus puissante aux États-Unis qu'en Europe.
Sinon, il y a une solution plus simple, hein, c'est toujours d'enclencher le mode avion sur son téléphone. Ça doit toujours marcher contre la 5G.
Merci Alexis Morel. L'édito politique à suivre.